Vous écoutez On lit pour vous.
L'IA expliquée, pourquoi le monde doit agir maintenant, un texte de Daniel Dickinson, paru le 1er juillet 2026 sur le site de l'ONU. L'intelligence artificielle, IA, avance à un rythme qui dépasse la capacité des gouvernements et des institutions à l'encadrer. Il y a encore quelques années, l'IA se limitait principalement à répondre à des questions ou à générer du texte. Aujourd'hui, elle est capable d'écrire du code informatique, d'analyser d'immenses volumes de données, de produire des images et des vidéos réalistes, d'aider les scientifiques à mettre au point de nouveaux médicaments et d'exécuter de plus en plus de tâches de manière autonome, avec une supervision humaine réduite. Mais alors que les capacités de l'IA progressent à une vitesse spectaculaire, les mécanismes destinés à garantir son utilisation sûre et responsable peinent à suivre. C'est l'un des principaux constats du rapport préliminaire du groupe scientifique international indépendant des Nations Unies sur l'intelligence artificielle, publié récemment. Le document souligne qu'il est encore possible de mettre en place une gouvernance mondiale efficace de l'IA, mais que cette fenêtre d'action pourrait rapidement se refermer. Pourquoi est-ce important? L'IA pourrait devenir l'une des technologies les plus transformatrices de l'histoire de l'humanité. Déployée de manière responsable, elle pourrait accélérer les progrès vers les objectifs de développement durable, ODD, en améliorant les soins de santé, l'éducation, la recherche scientifique, l'agriculture ou encore l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Mais sans règles solides, elle pourrait aussi aggraver les inégalités, amplifier la désinformation, menacer les droits humains, bouleverser certains secteurs de l'emploi et renforcer la concentration du pouvoir technologique entre les mains d'un nombre limité de gouvernements et d'entreprises. Selon le rapport, le défi est clair. Exploiter l'immense potentiel de l'IA tout en maîtrisant les risques qu'elle fait émerger. Une révolution technologique à une vitesse inédite. Les progrès de l'IA ont été fulgurants ces dernières années. L'association de nouvelles infrastructures informatiques puissantes, de quantités massives de données et d'avancées majeures dans les méthodes d'apprentissage automatique a permis le développement de systèmes capables de tenir des conversations complexes, de réaliser des analyses scientifiques, de programmer, mais aussi de créer des contenus visuels, sonores et vidéos d'un réalisme impressionnant. Et cette évolution ne s'arrête pas là. Les nouveaux systèmes dits « agents d'IA » ne se contentent plus de répondre à des demandes. Ils peuvent désormais planifier des tâches, utiliser des outils numériques, écrire des logiciels et accomplir des missions complexes avec une intervention humaine limitée. Selon le rapport, la complexité des tâches que ces systèmes sont capables d'effectuer double désormais en quelques mois. Les promesses, que peut déjà accomplir l'IA? Le rapport de l'ONU met en avant un nombre croissant d'applications concrètes. Des avancées médicales majeures, l'IA a permis de prédire la structure de plus de 200 millions de protéines, accélérant la découverte de médicaments, le développement de vaccins et les recherches sur la résistance aux antibiotiques. de meilleurs diagnostics et soins de santé. Des médecins utilisent déjà l'IA pour détecter plus tôt certaines maladies, notamment le cancer du sein, tandis que des professionnels de santé dans des pays en développement s'appuient sur des outils en langue locale pour améliorer l'accès aux soins. Une meilleure anticipation des crises alimentaires. Des systèmes d'alerte précoces utilisant l'IA permettent d'identifier plus rapidement les risques d'insécurité alimentaire avant qu'ils ne se transforment en crise majeure. Des progrès dans la vie quotidienne. L'IA soutient la recherche scientifique, facilite l'accès aux technologies pour les personnes handicapées et ouvre de nouvelles possibilités dans l'éducation personnalisée et l'accompagnement en santé mentale. Pour les experts de l'ONU, ces exemples ne relèvent pas de scénarios futuristes. Ils montrent que la transformation est déjà en cours. Les risques, qu'est-ce qui inquiète les experts? La même technologie qui ouvre des perspectives inédites crée aussi de nouveaux risques. Les abus en ligne, l'IA facilite la production et la diffusion de contenus à caractère sexuel, notamment de deepfakes explicites. Les femmes et les enfants figurent parmi les personnes les plus exposées. La désinformation. L'IA peut générer des contenus faux, mais extrêmement crédibles, brouillant la frontière entre réalité et manipulation et fragilisant la confiance dans l'espace public et les processus démocratiques. La criminalité. Des acteurs malveillants exploitent déjà l'IA pour mener des cyberattaques, perfectionner des fraudes et développer des techniques d'ingénierie sociale plus sophistiquées. La santé mentale. Certains systèmes d'IA peuvent renforcer des idées ou des comportements nuisibles avec des conséquences potentiellement graves, notamment des situations de détresse psychologique ou des suicides. La perte de contrôle. À mesure que les systèmes deviennent plus autonomes, les experts alertent sur le risque de voir leur fonctionnement devenir plus difficile à surveiller et à encadrer, sans mécanisme de sécurité adapté. L'impact environnemental. Les infrastructures nécessaires au fonctionnement de l'IA, notamment les centres de données très énergivores, contribuent aux émissions de gaz à effet de serre et au réchauffement climatique. Qui bénéficie de l'IA et qui risque d'être laissé de côté? La révolution de l'IA est loin de profiter à tous de manière équitable. Bien que ses usages se répandent à travers le monde, l'accès aux technologies les plus avancées reste largement concentré dans les pays les plus développés. Selon le rapport, les États-Unis disposent d'environ 3/4 de la puissance de calcul des supercalculateurs d'IA les plus performants au monde, tandis que la Chine en représente environ 15%. À eux deux, ces pays concentrent près de 90% de cette capacité. La majorité des modèles d'IA les plus avancés sont également développés par des entreprises implantées dans ces deux pays. À l'inverse, de nombreux pays en développement manquent encore d'infrastructures numériques, de compétences spécialisées, de données, d'investissements et de ressources linguistiques adaptées pour exploiter pleinement le potentiel de l'IA. Ils risquent ainsi de dépendre de technologies qu'ils ne peuvent ni concevoir, ni examiner, ni auditer, ni adapter à leur propre réalité. Le groupe d'experts avertit que, sans investissement et coopération internationale accrue, L'IA pourrait renforcer les fractures existantes au lieu de contribuer à les réduire. Pourquoi l'IA doit-elle être encadrée? Pour le groupe scientifique de l'ONU, les mécanismes actuels de gouvernance n'ont pas été conçus pour une technologie qui évolue à une telle vitesse. Les gouvernements font face à ce que les experts appellent un dilemme des données probantes. Ils ont besoin de preuves scientifiques solides avant d'adopter des règles. Mais lorsque ces données deviennent disponibles, les technologies ont souvent déjà évolué. Plus de 40 cadres de gouvernance et lignes directrices éthiques sur l'IA existent déjà dans différentes régions du monde. Mais selon le rapport, ces initiatives restent fragmentées, parfois incohérentes, et font rarement l'objet d'évaluations permettant de mesurer leur efficacité réelle. Autre sujet de préoccupation, de nombreuses évaluations de sécurité sont encore réalisées par les entreprises qui développent elles-mêmes les systèmes d'IA. Le rapport appelle donc à renforcer l'évaluation indépendante, la coopération internationale et l'élaboration de normes communes afin de garantir des systèmes d'IA sûrs, transparents et responsables. Parallèlement, les pays doivent investir dans les infrastructures numériques, l'éducation, les compétences techniques et les institutions publiques afin de pouvoir développer et encadrer l'IA selon leurs propres besoins. Que font les Nations unies? Les Nations unies travaillent à la création d'une nouvelle architecture internationale destinée à aider les pays à prendre des décisions éclairées sur l'avenir de l'IA. En 2025, l'Assemblée générale des Nations unies a créé le groupe scientifique international indépendant sur l'intelligence artificielle, composé de 40 experts, issus de toutes les régions du monde et siégeant à titre personnel. Ce groupe n'a pas pour mission de réglementer l'IA, mais d'apporter une expertise scientifique indépendante. Il analyse les dernières données disponibles sur les opportunités, les risques et les impacts de cette technologie afin de fournir au gouvernement des éléments fiables pour élaborer leur politique. Ces travaux alimenteront le dialogue mondial des Nations unies sur la gouvernance de l'IA qui s'ouvrira à Genève le 6 juillet 2026. Les États membres y discuteront des moyens de mieux coordonner les approches internationales face à cette technologie en pleine évolution. En résumé, le message du groupe scientifique est clair. L'IA n'est ni intrinsèquement bénéfique ni dangereuse. Son impact dépendra des décisions prises aujourd'hui par les gouvernements, les entreprises et les sociétés. Cette technologie transforme déjà la science, la santé, l'éducation et les économies du monde entier. Qu'elle contribue à réduire ou à accentuer les inégalités, qu'elle renforce ou fragilise la démocratie et les droits humains, dépendra largement de la capacité de la communauté internationale à mettre en place une gouvernance capable d'évoluer au même rythme que l'innovation. C'était l'IA expliquée pourquoi le monde doit agir maintenant, un texte de Daniel Dickinson, paru le 1er juillet 2026 sur le site de l'ONU.
À l'écoute des personnes sourdes grâce à une application. Un texte de Justine Bouchard-Girard, paru le 8 juillet 2026 dans Le Devoir. Le Devoir a assisté à des essais d'une application d'interprétation sur demande conçue pour faciliter la communication entre personnes sourdes et entendantes au quotidien. D'habitude, les entendants prennent les commandes pour les sourds. Maintenant, on peut prendre les commandes des entendants, dit Martin Boucher, réjoui. Il prend plaisir à nous demander ce qu'on souhaite manger et à transmettre nos choix aux employés d'une boulangerie. En arrivant chez Mamie Clafoutis, M. Boucher ouvre une application sur son téléphone et une interprète apparaît tout de suite à l'écran. Cette dernière fait la traduction de la langue des signes québécoise, LSQ, au français et vice-versa pour que les commis et M. Boucher puissent se comprendre. C'est un outil de communication plus naturel, parce qu'avec ce nouveau service d'interprétation, je n'ai plus besoin de prendre rendez-vous pour avoir accès à un interprète, fait valoir l'intervenant de la Maison des hommes sourds. C'est agréable de pouvoir enfin interagir spontanément avec les personnes entendantes, soutient l'homme de 42 ans. D'autant que la LSQ est plus qu'une langue pour la communauté sourde. Elle est le siège d'une véritable culture. Ce service permet à M. Boucher d'avoir un interprète à portée de main, sur téléphone ou tablette, lors de situations quotidiennes ou de rencontres fortuites. Il est l'une des 32 personnes qui, du 1er mai au 30 juin, ont pris part à ce projet pilote mené par le service d'interprétation visuelle et tactile, SIVET. L'organisme assure la traduction en LSQ pour les personnes sourdes, sourdes aveugles et malentendantes francophones du Québec. Son but est notamment de favoriser leur participation à la vie sociale, professionnelle et citoyenne. Prôner l'inclusion. Cette application est plus inclusive que ce qui s'offre à nous à l'heure actuelle, souligne Martin Boucher. Cette idée d'inclusion est d'ailleurs au cœur de la démarche du SIVET. Présentement, les milieux couverts par l'interprétation sont notamment limités à l'emploi, la santé et les services sociaux. Offrir un interprète en temps réel par visioconférence a donc comme objectif d'élargir l'offre pour que les personnes sourdes puissent communiquer facilement et sans frais si elles veulent, par exemple, magasiner une voiture, demander des renseignements à l'épicerie ou à la pharmacie, explique Caroline Hould, directrice du développement au SIVET. Avec Martin Boucher, nous nous dirigeons justement vers une pharmacie située sur la rue Sherbrooke, à quelques minutes à pied des bureaux montréalais de l'organisme. Il utilise l'application pour demander des renseignements sur une crème au comptoir des ordonnances. « Wow! C'est une intelligence artificielle qui parle !» demande la commis au comptoir de la pharmacie. « Non, c'est une vraie personne !» lui répond M. Boucher, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. « Je suis ému. Et surtout, très contente pour vous, lui lance l'employé, qui trouve que c'est cool de pouvoir communiquer de la sorte avec son client régulier. Parfois, les gens trouvent ça plus simple de ne pas leur parler, déplore Lorena Garrido, directrice générale du SIVET. Elle croit que l'application va favoriser le contact avec les entendants. Les personnes sourdes ne sont pas handicapées. Elles ont juste un défi additionnel au niveau de la communication. Madame Garrido réitère que ce n'est pas toujours la responsabilité de la personne sourde d'aller entamer la conversation. C'est aussi celle des personnes entendantes d'inclure les personnes sourdes dans la société. Une solution concrète. Chaque mois, le SIVET traite environ 1300 demandes de services. Son projet pilote d'application apparaît dans un contexte où le Québec fait face à une pénurie d'interprètes, ce qui entraîne déjà des bris de service dans certaines régions. Pendant que l'interprète se déplace pour aller à son affectation, il n'est pas en train d'interpréter, et lorsqu'il attend à l'urgence que la personne sourde passe au triage, c'est aussi du temps perdu, fait remarquer Mme Garrido. L'interprétation sur demande permet donc, selon elle, d'optimiser les ressources. L'un des principaux buts de ce modèle est d'ailleurs de donner une autonomie complète aux personnes sourdes en s'assurant qu'elles puissent avoir accès à un interprète en tout temps, soutient la directrice générale du SIVET. Communiquer sans devoir payer. Lorena Garrido souligne avec ironie que les personnes sourdes actuellement ne peuvent pas se permettre d'être en dépression parce qu'après un certain nombre de rendez-vous chez la psychologue, le service d'interprétation n'est plus remboursé. Ce qui implique que la personne doit à la fois payer le professionnel de la santé et l'interprète. Si les sourds veulent tout simplement se confier à leurs proches, aucun service d'interprète n'est couvert. Lorena Garrido pense que l'interprétation sur demande va aussi permettre aux personnes sourdes d'avoir des conversations plus profondes avec les membres de leur propre famille. Souvent, certaines discussions restent en surface, car les proches des sourds ne connaissent pas nécessairement tous les signes, explique-t-elle. Et la personne sourde ne veut pas payer un interprète pour interagir au souper. Martin Boucher, par exemple, a grandi dans une famille entendante et il est le seul sourd de son cercle familial rapproché. Cette réalité est commune, souligne Caroline Hould, car 90% des enfants sourds naissent de parents entendants. Les intervenantes du SIVET soutiennent que l'accès à la communication ne devrait pas être une question de moyens financiers. C'est pourquoi l'organisme souhaite que l'interprétation sur demande soit gratuite. Mais pour ça, il faut un investissement pérenne, public ou privé, explique Caroline Hould. Selon une analyse économique réalisée par la firme APECO, chaque dollar investi dans les services d'interprétation en LSQ rapporte à l'État près de 7 dollars en avantages économiques et sociaux. Peut-être qu'il y a des entreprises privées qui vont vouloir aussi collaborer s'ils voient que ça peut leur amener de la clientèle, espère Mme Garrido. C'était « À l'écoute des personnes sourdes grâce à une application », un texte de Justine Bouchard-Girard paru le 8 juillet 2026 dans Le Devoir.
À quelle heure doit-on boire le dernier café? Un texte du Washington Post paru le 24 juin 2026 dans le Journal de Montréal. Les amateurs de cette boisson chaude dorment moins que ceux qui n'en consomment pas, montre une étude. Combien de temps la caféine reste-t-elle dans l'organisme? Boire une ou deux tasses l'après-midi perturbe-t-il le sommeil? Les amateurs de café doivent se préparer à une révélation amère. Une étude de 2023 publiée dans le New England Journal of Medicine révèle que les personnes buvant une tasse de café ou plus par jour perdraient en moyenne 36 minutes de sommeil comparativement à celles qui n'en consommaient pas. Cependant, les participants qui buvaient du café étaient aussi plus actifs, marchant en moyenne 800 mètres de plus par jour par rapport au groupe qui s'en abstenait. Selon les chercheurs, le surplus d'énergie qu'il génère pourrait expliquer pourquoi le café fait souvent parler de lui pour ses bienfaits sur la santé, notamment sur la longévité.
Ce compromis entre énergie et sommeil, les buveurs de café le connaissent bien. Il suffit d'un mauvais dosage de caféine pour se retrouver à la fois fatigué et surexcité. Tôt en après-midi. La bonne nouvelle est qu'il est inutile de bannir le café. La solution serait peut-être de boire sa dernière tasse beaucoup plus tôt dans la journée. En 2023, une méta-analyse a été menée sur 24 études qui s'intéressaient aux effets d'une tasse standard de café contenant environ 100 mg de caféine. Conclusion. Il faudrait cesser de boire du café au moins 9 heures avant de se coucher pour bénéficier d'une nuit de sommeil optimale. Cela signifie que les gens qui se mettent au lit à 22 heures devraient boire leur dernière tasse avant 13 heures. Sinon, le café pourrait réduire la durée totale du sommeil de 45 minutes et prolonger le temps d'endormissement d'environ 9 minutes. Et le café le soir? Éviter le café 9 heures avant le coucher est une règle valable, mais chaque personne réagit différemment. D'anciennes recherches révèlent que le temps dont le corps a besoin pour éliminer 50 % de la caféine varie de 2 à 10 heures selon les individus. L'ADN détermine en partie cette variation. Les scientifiques ont identifié les gènes qui influent la vitesse à laquelle la caféine est métabolisée et comment ils activent le système de récompense du cerveau. Par exemple, le gène CYP1A2 contrôle la rapidité avec laquelle le foie traite la caféine, tandis que le gène ADORA2A régule la sensibilité aux effets stimulants du café. Des variantes du gène ADORA2A font en sorte que certaines personnes ressentent de l'anxiété après avoir bu du café. Cela explique pourquoi certains souffrent davantage d'insomnie que d'autres après la même tasse. Plusieurs croient que la consommation régulière de café crée une tolérance qui atténuerait au fil du temps les effets sur le sommeil. Pourtant, les données soutenant cette idée sont bien rares. Cette amie qui réussit à dormir comme un bébé après avoir siroté son expresso à 21 heures doit remercier ses gènes. C'était « À quelle heure doit-on boire le dernier café? » Un texte du Washington Post paru le 24 juin 2026 dans le Journal de Montréal.